Jusqu'à ma rencontre avec Christa, l'un des bonheurs de ma vie d'adolescente avait consisté à lire. Je me couchais sur mon lit avec un livre et je devenais le texte. Si le roman était de qualité, il me transformait en lui. S'il était médiocre, je n'en passais pas moins des heures merveilleuses à me délecter de ce qui ne me plaisait pas en lui, à sourire des occasions manquées. La lecture n'est pas un plaisir de substitution. Vue de l'extérieur, mon existence était squelettique. Vue de l'intérieur, elle inspirait ce qu'inspirent les appartements dont l'unique mobilier est une bibliothèque somptueusement remplie. La jalousie admirative pour qui ne s'embarrasse pas du superflu et regorge du nécessaire. Personne ne me connaissait de l'intérieur. Personne ne savait que je n'étais pas à plaindre, sauf moi. Et cela me suffisait. Je profitais de mon invisibilité pour lire des jours entiers sans que personne s'en aperçût. Il n'y avait guère que mes parents pour remarquer ce comportement. Je subissais leur sarcasme. Ma biologiste de mère s'offusquait que je laisse mon physique en friche. Mon père l'appuyait à grand renfort de citations latines ou grecques, mens sana in corpore sano, etc. Me parlait de Sparte et s'imaginait sans doute qu'il existait des gymnases où j'eusse pu aller m'entraîner au discobol. Il eût même préféré avoir pour rejeton un Alcibiade plutôt que cette fille éprise de littérature, rêveuse et solitaire. Je n'essayais pas de me défendre. À quoi bon tenter de leur expliquer que j'étais invisible? Ils me croyaient hautaine, dédaigneuse des joies ordinaires de mon âge. J'eusse adoré trouver le mode d'emploi de mon adolescence, mais c'était impossible sans le regard de quelqu'un. Mes parents ne me regardaient pas, puisqu'ils avaient déjà décrété comment j'étais. Trop sage, pas vivante, etc. Un regard véritable n'a pas d'idée préconçue. Si des yeux vrais s'étaient posés sur moi, ils eussent vu une pile atomique, un arc tendu à l'extrême, ne demandant qu'une flèche et une cible, et hurlant son désir de recevoir ces deux trésors. Cependant, aussi longtemps que ces grâces me seraient refusées, je n'éprouvais pas de frustration à fleurir dans les livres. J'attendais mon heure. Je tissais mes pétales avec du Stendhal et du Radiguet, qui ne me paraissaient pas les pires ingrédients de cette terre. Je ne vivais pas au rabais. Depuis Christa, la lecture tenait du coït interrompu. Si elle me surprenait en train de lire, elle commençait par m'engueuler. « Toujours dans tes bouquins !» Puis se mettait à me parler de mille choses sans intérêt aucun, qu'elle répétait invariablement quatre fois. Comme je m'ennuyais ferme quand elle me baratinait, je n'avais d'autre dérivatif que compter ses redites et m'étonner de ce cycle quaternaire. Et Marie-Rose m'a dit « Alors j'ai dit à Marie-Rose « « Incroyable, hein, ce qu'elle m'a dit Marie-Rose. Bon, bah, tu penses bien que je lui ai dit à Marie-Rose que... » Parfois, je me forçais, par politesse, à feindre une réaction comme « Qui est Marie-Rose ?» Mal m'en prenait. Christa s'exaspérait. « Je t'ai déjà raconté mille fois. » En effet, elle avait sûrement évoqué 4000 fois ce personnage à mon ennui récurrent, et j'avais dû l'oublier 4000 fois. Bref, il valait mieux que je me taise et la regarder parler en ponctuant son discours de ou de hochement de tête. Je me demandais pourtant pourquoi elle se comportait de cette manière. Ce n'était pas une idiote. Elle ne pouvait pas trouver divertissant de me narrer l'eau de vaisselle qui lui tenait lieu de récit. J'en étais arrivée à la conclusion que Christa souffrait d'une jalousie pathologique. Quand elle me voyait heureuse avec un livre, il fallait qu'elle détruise ce bonheur, faute de pouvoir se l'approprier. Elle avait réussi à s'accaparer mes parents et l'appartement. Il lui fallait aussi mes joies. Or, j'étais prête à les partager. « Si tu me laisses terminer ma lecture, je te passerai ce bouquin. » Elle ne pouvait pas attendre. Elle me le prenait des mains, l'ouvrait n'importe où, lisait le milieu ou la fin, je n'osais lui montrer le mépris que m'inspiraient de telles pratiques, s'y installait avec une moue dubitative, j'allais me chercher un autre livre, et à peine le texte avait-il serré ses bras autour de moi, que j'entendais parler à nouveau de Marie-Rose ou de Jean-Michel. C'était insupportable. « Tu n'aimes pas ce roman ?» lui demandai-je. « Je crois que je l'ai déjà lu. » « Comment ça, tu crois? Quand tu as mangé une tarte, Tu sais si tu l'as mangée, non ? C'est toi, la tarte. » Et elle pouffait, enchantée de son mot d'esprit. Mon air consterné lui semblait une victoire. Elle pensait m'avoir rivé mon clou. En vérité, j'étais effondrée de la découvrir si bête. Comme il lui fallait le beurre et l'argent du beurre, elle se vantait de ses lectures devant mes parents. Il tombait dans tous ses panneaux et s'extasiait. Oh, « Tu trouves le temps de lire malgré tes études et ton travail de serveuse ?»«
Ce n'est pas le cas de Blanche qui, à part lire, ne fait strictement rien. »«
Rends-nous service, Christa. Arrache-la à ses bouquins. Apprends-lui à vivre. »«
Si c'est pour vous rendre service, je vous promets d'essayer. »
Comme elle était forte pour suggérer toujours que nous avions d'excellentes raisons de lui être redevables. Avait-elle donc trépané mes parents pour qu'ils soient devenus si bêtes ? Je les regardais sans comprendre. Savait-il qu'ils ne cessaient de me renier ? Pourquoi méprisaient-ils leur enfant ? Leur affection pour moi avait-elle si peu pesé ? Je ne leur avais pourtant posé aucun problème. En 16 années, personne ne s'était plaint à mon sujet et je ne leur avais jamais reproché de m'avoir donné la vie, qui, cependant, ne m'avait pas encore montré en quoi elle valait le détour. Je me rappelais soudain la parabole de l'enfant prodigue. Déjà, dans la bouche du Christ, les parents préféraient l'enfant qui s'était mal conduit. A fortiori dans la bouche de Christa. Peut-être le Christ et Christa prêchaient-ils pour leur chapelle ? L'enfant prodigue, c'était eux. Et moi, j'étais le déplorable enfant sage, celui qui n'a pas eu l'habileté de signaler par ses turbulences, par ses fugues, par ses impertinences, par ses insultes, qu'il méritait hautement l'amour de son père et de sa mère.